Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant sa vie, Sainte Gertrude eut la grâce de nombreuses visions de notre Seigneur. Un jour, elle le vit comptant des pièces d'or. Fort étonnée, elle lui demande ce qu'il comptait. « Je compte, lui répondit-il, tes Ave Maria. » C'est la monnaie dont on achète mon paradis. Le paradis, il n'a pas de prix. Il faut donc beaucoup de monnaie pour l'acheter. C'est ce que confirma la Vierge Marie à Fatima en 1917 à Sœur Lucie, qui lui demandait si François irait au ciel. Lui aussi, répondit Marie, mais il a encore à réciter beaucoup de rosaires. En apprenant cela, François s'écria, « Oh, ma Notre-Dame, des chapelets, j'en réciterai tant que vous voudrez. » Et il a tenu parole. Maintenant, il est au ciel. Pour aller au ciel, vous savez qu'il faut être saint, absolument parfait. Le rosaire est donc un moyen excellent pour tendre à la perfection et parvenir au ciel. Pour mieux comprendre comment une prière si simple et si facile à dire peut obtenir un tel effet, voyons d'abord de quoi il est constitué. Le rosaire, c'est une prière vocale unie à la contemplation des mystères de Jésus et de Marie. L'art sacré du rosaire, dit le père de Montsabré, consiste à réciter dévotement les prières liturgiques pendant que l'âme, saintement occupée des mystères, contemple, médite, goûte et produit des affections conformes aux circonstances dans lesquelles nous apparaissent Jésus et sa Sainte Mère. Le rosaire est parfaitement adapté à notre nature. Comme elle, il est composé d'une âme et d'un corps. Le corps, ce sont les prières liturgiques, le credo, le pater et l'ave maria. L'âme, c'est la contemplation des mystères. De même que notre âme a plus de valeur que notre corps, de même, la contemplation des mystères est ce qu'il y a de plus important dans le rosaire. C'est l'essence du rosaire. Sans elle, le rosaire est une couronne de roses sans parfum. Voyons d'abord le corps du rosaire. Ce sont les prières liturgiques qui le composent. Elles vous sont bien connues. Disons-en seulement quelques mots. Le credo, c'est la clé du rosaire, la clé qui ouvre le trésor de grâce qu'il contient. Par la récitation du credo, qui est un résumé de tous les articles de notre foi, nous professons notre foi. Et plus celle-ci sera vive et forte, plus le rosaire sera méritoire. Le pater, c'est la prière enseignée par notre Seigneur. Elle renferme, dit saint Cyprien, tous les devoirs que nous devons rendre à Dieu, les actes de toutes les vertus et les demandes de tous nos besoins spirituels et corporels. L'Ave Maria, c'est le plus parfait compliment que nous puissions faire à Marie, puisque c'est celui que Dieu lui envoya par l'archange Saint Gabriel pour lui gagner son cœur. Cette Ave Maria est composée tout d'abord de la salutation de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ensuite, suivent les paroles de Sainte Élisabeth, inspirées du Saint-Esprit, qui répond à la salutation de Marie le jour de la visitation par ces paroles. « Le fruit de vos entrailles est béni. » À ces paroles, le pape Urbain IV, au XIIIe siècle, fit rajouter le mot « Jésus ». Ce mot est l'indulgentia. Ensuite, il y a l'invocation « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs ». Ces paroles sont dues au concile d'Éphèse en 431. Et, par la suite, au cours des siècles, la piété des fidèles compléta par cette phrase « Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Au XVIe siècle, le pape dominicain, Saint Pie V, fit insérer cette prière de l'Ave Maria dans sa nouvelle édition du Bréviaire. Il en fixa ainsi la formule, c'est celle que nous connaissons actuellement. Vous savez qu'on appelle le rosaire le psautier de Marie, ou le bréviaire des pauvres. Pourquoi cela? Parce qu'il est constitué de 150 Ave Maria, comme il y a 150 psaumes dans le bréviaire. Et de même qu'après chaque psaume, on dit le Gloria Patri, là, les 150 Ave ont été groupés par dizaines, et après chaque dizaine, on dit aussi le Gloria Patri pour imiter la récitation du bréviaire. Voilà pour le corps du rosaire. Voyons maintenant son âme, la partie la plus importante. Les 15 mystères du rosaire sont des jalons qui recouvrent toute la vie de notre Seigneur, depuis son incarnation jusqu'à son ascension à la droite du Père, l'envoi du Consolateur promis, le Saint-Esprit, la résurrection de la très sainte Vierge Marie et son couronnement au ciel, après qu'elle eut terminé sa mission d'assister l'Église naissante. Ces 15 mystères sont un résumé. Au départ, il y en avait beaucoup plus. Tout au début, les fidèles méditaient 150 mystères, donc 150 petits passages de la vie de notre Seigneur. Et donc, ces 15 mystères ont été fixés, ont été donnés par Notre-Dame à Saint-Dominique, et depuis, donc, on s'en tient à ces 15 mystères. Ces 15 mystères, bien qu'ils se rattachent à des événements historiques précis, par exemple la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem, s'étendent à toute l'histoire du Sauveur. Alors, va-t-on pour cela rajouter des mystères comme cela s'est fait il y a quelques années avec des mystères relatifs à la vie publique qu'on appelle les mystères lumineux? Non, inutile. Car, explique Monseigneur D, ces mystères sont un dans leur fond, et dans chacun d'eux, c'est tout le Christ qu'il faut trouver. Il est donc possible de rayonner autour de chaque fait historique en toute liberté. Prenons un exemple. La contemplation de l'incarnation, premier mystère joyeux, voilà, l'ange annonce l'incarnation de notre Seigneur dans le sein de la Vierge Marie. Eh bien, cette incarnation s'étend à la vie temporelle de l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, dans tous les temps et les lieux où elle a habité parmi nous. Ainsi, on peut méditer dans ce premier mystère joyeux la guérison de l'aveugle-né que Jésus envoie à la piscine de Siloé pour laver ses yeux qui viennent enduire d'un peu de boue faite avec sa salive. Donc, une fois guéri, l'aveugle revient, il rencontre Jésus et Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ?»« Qui est-il ?» demanda l'homme. « Tu l'as vu, ajouta Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Ce miraculé, mis en présence de Dieu incarné, est bouleversé. Il se dit en lui-même, « Celui qui a touché mes yeux, celui qui me parle en ce moment, que mes yeux guéris voient distinctement, c'est le Fils de Dieu, le Verbe incarné. » Alors, rempli de foi, il se prosterne et il adore. Donc, il adore le Verbe incarné, le mystère de l'incarnation. Et pourtant, on est dans la vie publique de notre Seigneur. Bien que chaque mystère soit différent, en raison de l'événement historique qu'il nous présente, il nous révèle Dieu, car la personne qui assume ce mystère, c'est le Verbe de Dieu. Ainsi, la naissance à Bethléem est un fait banal. Un enfant nous est né. Des enfants, il y en a des milliers tous les jours. Mais cet enfant, chante l'Église, c'est un Dieu qui nous est donné. Et c'est pourquoi les bergers, les mages, viennent l'adorer sans s'arrêter aux apparences. En cet enfant s'accomplit l'apparition de la bonté de Dieu et de son amour pour l'humanité. Il est important maintenant de comprendre que la contemplation des mystères de Jésus, ce n'est pas feuilleter l'album photo de la plus merveilleuse des vies, qui n'a pas d'effet dans le présent, une fois qu'on a refermé l'album. Si les mystères de Jésus sont passés dans l'exécution, ils sont présents quant à leur vertu. Cette vertu, dit saint Thomas, atteint par sa présence tous les temps et tous les lieux. C'est un contact virtuel qui suffit pour provoquer une action efficace et salutaire. C'est-à-dire que par la méditation du mystère, nous entrons par la foi au contact de Jésus, qui dans chaque mystère nous voyait personnellement, dans notre vie personnelle, notre propre histoire, d'une manière intentionnelle, aimante, efficace. C'est pour nous qu'il travaillait, qu'il voyageait, qu'il jeûnait, qu'il était tenté, qu'il souffrait, qu'il est mort sur la croix et qu'il ressuscita des morts. Donc chacun de nous peut dire, en contemplant chaque mystère, « Jésus m'a aimé, a pensé à moi, s'est offert et s'est livré pour moi. » Je peux donc m'approprier tous ces mystères, car c'est pour moi qui les a vécus. En entrant ainsi en contact avec Jésus, il va déposer dans mon âme les présents qui sont contenus dans son cœur. Vous voyez, chers fidèles, les richesses admirables de sanctification qui sont renfermées dans les mystères du rosaire. La contemplation de ces mystères est donc un moyen puissant et efficace pour notre sanctification. Cette contemplation attire le règne de Dieu dans nos âmes. En effet, on ne peut contempler sans cesse et regarder avec les yeux de la foi l'intérieur des mystères de Jésus sans s'assimiler peu à peu ses sentiments, ses intentions, ses jugements, son esprit, sans imiter ses vertus. Vous savez que l'exemple est communicatif par lui-même. Quand dans une bonne famille chrétienne, le fils aîné brille par ses vertus, sa générosité, sa bonté, son savoir-faire, ses petits frères sont fortement attirés à l'imiter. C'est l'exemple, on le regarde et on fait comme lui. Il les tire vers le haut, à la grande satisfaction des parents. Cependant, le fils aîné n'a pas le pouvoir de communiquer à ses petits frères des grâces nécessaires pour corriger un défaut ou pratiquer une vertu difficile. Ce n'est pas le cas pour Jésus contemplé dans ses mystères. Non seulement Jésus s'offre à nous comme un modèle très stimulant à imiter, « Je vous ai donné, dit-il dans l'Évangile, l'exemple afin que vous fassiez comme vous m'avez vu faire », mais il nous communique la grâce nécessaire pour l'imiter. En contemplant Jésus dans un mystère, nous faisons comme l'hémorroïs qui touche avec foi le bord du vêtement de Jésus. Aussitôt, une vertu sort de lui et elle est guérie. Dans chacun des mystères contemplés avec foi, sort une vertu pour nous éclairer, pour nous purifier, pour nous guérir, pour nous sanctifier. Nous avons dit que la foi était la clé qui ouvre les trésors contenus dans le rosaire. Oui, une foi vive est indispensable pour que la vertu du rosaire, du mystère médité, descende dans notre âme. Sans la foi, elle ne descendra pas. Notre espérance doit être grande également, car on obtient autant qu'on espère. Et c'est pourquoi, sœur Lucie de Fatima, disait qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, qui ne puisse être résolu par la prière du rosaire. Et elle cite tous les problèmes, individuels, familiaux, internationaux, etc. Quand on lit ça, on se dit, ah, c'est un peu exagéré, etc. Eh bien non, quand on a compris ce qu'était la contemplation des mystères du rosaire, eh bien c'est tout à fait ça. En voici un petit exemple. Pendant la guerre de 1870, dans une ville de l'Ouest, peut-être Le Mans ou Sablé, se trouvait dans une maison une petite fille de 11 ans, orpheline de mère, et une servante. Le papa était parti au combat, c'était une nuit d'hiver, il faisait très froid. Deux hommes frappent à la porte, apportant un jeune officier blessé. Les soldats qui viennent de l'apporter retournent à leur poste après que le blessé ait été installé sur un matelas. Le blessé ne donnait pas signe de vie, et du sang s'échappait en abondance de la blessure qu'il avait à la tête. Après avoir recommandé à la fillette d'appliquer sur les tempes des linges imbibés d'eau froide, la servante part chercher un médecin. Marguerite, 11 ans, reste seule en présence du blessé, qui va peut-être mourir d'un instant à l'autre. Elle est angoissée. Alors elle suit à la lettre les prescriptions de la servante, mais en voyant la serviette rouge de sang, elle sent son courage prêt à l'abandonner. Alors elle se met à genoux et récite son chapelet, priant de tout son cœur. Le sang coulait toujours, mais moins fort, semble-t-il. Elle redouble de ferveur. La serviette sèche un peu. Le blessé ouvre les yeux. La fillette lui commande avec autorité de ne pas bouger. Elle va lui donner à boire, parce qu'il a perdu beaucoup de sang, mais il ne peut pas boire dans un verre, donc elle va lui donner à la petite cuillère pour lui éviter de bouger la tête. Enfin, après quelques temps, le médecin arrive, étonné que le sang se soit arrêté. « Qu'avez-vous fait, petite infirmière ?»« J'ai récité le chapelet, » répond Marguerite. Pendant que le médecin soigne le blessé, la fillette va continuer son chapelet à genoux au coin du salon. Après quelques jours, le blessé pourra regagner son poste. 7 ans plus tard, la paix a été de nouveau établie. Le jeune officier frappe à la porte de la maison. Il vient remercier et rendre grâce, car en récitant son chapelet, Marguerite a non seulement obtenu sa guérison, mais aussi sa conversion. En effet, la récitation du chapelet au chevet d'un blessé par une fillette de 11 ans a vivement frappé l'officier. Il se demandait comment le catholicisme pouvait inspirer à une enfant le courage et la foi vive dont elle avait donné l'épreuve. Il était baptisé, mais n'avait jamais pratiqué. Sa réflexion le conduisit à pratiquer la foi de son baptême et à embrasser la vie religieuse. Il s'était décidé à rentrer à Solesmes, et c'est juste avant son entrée à Solesmes qu'il vient remercier sa bienfaitrice. Marguerite, elle, n'oublia jamais, une fois mariée, de rendre grâce en faisant réciter chaque soir à toute sa maisonnée une dizaine de chapelets en reconnaissance de cette grâce. Si le chapelet récité avec foi et ferveur peut guérir un blessé de guerre et changer son cœur, il peut guérir nos âmes de toutes les plaies et obstacles qui empêchent Jésus d'y régner. Qu'est-ce qui empêche notre sanctification ? Le péché, les imperfections voulues, consenties. C'est le mal qui saoule nos âmes, qui détruit les familles, qui corrompt les sociétés, divise les nations et provoque les guerres. Le remède au péché, c'est Jésus, notre Sauveur. Il est notre Sauveur, dont la vertu sanctifiante et guérissante nous est appliquée aujourd'hui en 2023, pour chaque situation particulière, si nous prions avec foi le rosaire. Vous me direz peut-être, la contemplation des mystères n'est pas chose facile. Regardons simplement Marie, elle est notre modèle. Elle ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer les vertus et les souffrances de son Fils, et après son ascension, à visiter les lieux qu'il avait sanctifiés par sa présence et ses tourments. Et si notre âme, accablée par la maladie ou la fatigue, s'évade involontairement de la présence de Dieu, et que notre corps est seul à prier, ne nous décourageons pas. Cette persévérance de la prière, même réduite à notre action corporelle, est encore réelle, efficace et méritoire. Alors que le mois du rosaire, dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, soit pour nous l'occasion de mieux réciter notre chapelet en contemplant les mystères avec foi, afin de préparer l'avènement du royaume de Dieu dans le monde, par notre sanctification personnelle et celle de nos familles. C'est la grâce que nous demanderons à Notre-Dame du Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.